Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Merci à vous d'écouter RFI, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
Adrien Delgrange.
Avec Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous.
Nous sommes ensemble 10 minutes pour un journal en français facile avec au sommaire de cette édition...
L'élection présidentielle en France.
Et pour ce dernier jour de campagne électorale, chaque candidat était aujourd'hui dans une région qui lui est favorable. Emmanuel Macron en Occitanie, Marine Le Pen dans les Hauts-de-France.
Près de deux mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, Moscou annonce viser le contrôle total de la région du Donbass.
Et au chapitre justice, la France émet un mandat d'arrêt international, un ordre d'arrestation contre Carlos Ghosn. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Le journal
en français facile.
Alors que Marine Le Pen était dans son fief des Hauts-de-France pour achever sa campagne, son rival Emmanuel Macron était, lui, dans le Lot.
En région Occitanie, le Lot, un département rural qui a voté massivement pour Emmanuel Macron il y a 5 ans, le président sortant a enchaîné les bains de foule et s'est lancé aussi dans un long plaidoyer en faveur de son projet de réforme pour notre pays, tout en défendant son bilan, notamment le quoi qu'il en coûte face à la pandémie de Covid.
Et à moins de 2 jours du second tour, les mises en garde se multiplient pour attirer l'attention des Français sur les incohérences du programme de Marine Le Pen. Jean-Pierre Mon latin.
Et aujourd'hui, 2 prix Nobel d'économie, Zéphirin, ont publié pour cela, pour asseoir leur argumentaire, une tribune dans le quotidien français Libération. Pierre-Olivier.
Le projet de Marine Le Pen est un Frexit déguisé, comprendre une sortie de l'UE qui ferait perdre la France en crédibilité, prophétise le Nobel d'économie Jean Tirole. Selon lui, les finances du pays ne s'amélioreront pas avec Marine Le Pen, au contraire, il prédit une augmentation de la dette ainsi que des taux d'intérêt. Autre problème soulevé par Esther Duflo, prix Nobel d'économie en 2019, les mesures de Marine Le Pen avantageraient la France qui va bien et seraient même parfois contre-productives pour les plus pauvres. C'est le cas notamment de la suppression de la TVA sur un panier moyen de courses, mesure phare du RN pour favoriser le pouvoir d'achat des plus modestes. Mais voilà, comme ce sont ceux qui consomment le plus qui payent le plus cette taxe, Esther Duflo estime que cette mesure revient en fait à faire un gros cadeau fiscal aux plus riches. La mobilisation contre Marine Le Pen est aussi plus générale. Il y a 10 jours, une 50aine de sportifs publiait une tribune pour alerter sur le vote RN, un vote diamétralement opposé à leurs valeurs du sport. Enfin, plus récemment, ce sont plus de 400 personnalités du monde de la culture qui ont appelé, sans trembler, à voter pour Emmanuel Macron.
RFI à Paris, 22h03, c'était Pierre-Olivier.
Et dans l'actualité de ce vendredi 22 avril, également la guerre en Ukraine et Moscou qui vise le contrôle total du Donbass.
C'est ce qu'indique du moins un haut responsable russe. Et pour cela, le sort, l'avenir du port de Mariupol est essentiel. La ville est en grande partie sous contrôle russe, mais une partie des habitants de Mariupol résiste toujours, notamment autour du site industriel d'Azovstal. Muriel Paradon.
Les Ukrainiens retranchés dans le site industriel d'Azovstal vont-ils se rendre ou continuer à résister ? Vladimir Poutine, qui a ordonné aux troupes russes d'assiéger les lieux, demande une nouvelle fois aux combattants ukrainiens de déposer les armes. Militaires, groupes nationalistes, mercenaires étrangers, quels qu'ils soient, ils auront la vie sauve, assure Vladimir Poutine. Mais le maître du Kremlin accuse aussi le régime de Kiev de ne pas leur laisser cette possibilité d'empêcher leur reddition. De son côté, le maire de Mariupol réclame un jour entier de cesser le feu pour permettre aux civils bloqués sur le site d'Azovstal de pouvoir sortir. L'armée russe se dit prête à une trêve humanitaire, avec comme point de départ la levée de drapeaux blancs des combattants. Les civils auront ensuite le choix de rejoindre des territoires sous contrôle ukrainien ou sous contrôle russe, assure l'armée. Il serait environ 2000 combattants et 1 millier de civils à être encore retranchés dans le site d'Azovstal de Mariupol.
L'Union européenne qui réclame ce soir de son côté des corridors humanitaires. notamment à l'occasion de cette fête religieuse, la Pâque orthodoxe.
Antonio Guterres se rendra, lui, la semaine prochaine en Russie.
Le secrétaire général de l'ONU sera reçu par Vladimir Poutine. Leur première rencontre depuis le début de la guerre en Ukraine. Les deux hommes se verront mardi. Et puis enfin, nous avons appris pour la première fois ce soir que la Russie reconnaît des pertes après le naufrage la semaine dernière d'un bateau russe, un bateau de l'armée russe au large de l'Ukraine. Un marin est mort, 27 autres sont toujours portés disparus, indique ce soir le ministère russe de la Défense.
En Afghanistan, une explosion dans une mosquée fait de nombreux morts.
À Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan, ça s'est passé pendant la prière du vendredi, au moins 33 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans cette explosion qui pourrait être un attentat.
Et puis à Jérusalem, de nouveaux heurts, de nouveaux affrontements sur l'esplanade des mosquées.
Des accrochages aujourd'hui entre policiers israéliens et manifestants palestiniens. Le Croissant Rouge fait état d'au moins 57 blessés côté palestinien, dont 2 grièvement et une dizaine qui ont été évacués vers des hôpitaux. Après ces affrontements, les autorités israéliennes ont décidé de fermer ce week-end les points de passage. Ces points de passage qui permettent aux Palestiniens de Cisjordanie occupée de se rendre à Jérusalem.
Le journal en français facile.
Oui, cette question à présent, Adrien. Une extradition de Carlos Ghosn vers la France est-elle possible ?
Toujours réfugié au Liban, après sa fuite rocambolesque du Japon, c'était fin 2019, la justice française a délivré ce matin un mandat d'arrêt international, un ordre d'arrestation à l'encontre de l'ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan. Alexis Bédu, il sera très difficile, voire impossible pour la justice française de mettre la main sur Carlos Ghosn.
L'homme d'affaires est soupçonné d'abus de biens sociaux, de blanchiment et de corruption. En cause des paiements suspects se montant à 15 millions d'euros entre Renault-Nissan et le distributeur du constructeur automobile à Oman. Mais le Liban a pour principe la non-extradition de ses ressortissants. Or, Carlos Ghosn possède la triple nationalité, française, libanaise et brésilienne. Pour Vincent Brengart, avocat spécialisé en droit pénal dans la défense des libertés publiques, il est peu probable que le Liban accepte l'exécution de ce mandat d'arrêt.
Puis avoir éventuellement la question d'un accord d'extradition passé entre la France et le Liban, sauf qu'en fait les deux pays ne sont pas liés par une convention d'entraide judiciaire en matière pénale. Vous avez aussi la question plus politique de savoir si vous commencez finalement une coopération sur la question par exemple du mandat d'arrêt décerné à l'encontre de Carlos Ghosn, et ça peut ouvrir aussi la voie à d'autres coopérations, notamment en matière bancaire, qui jusqu'à présent ont été plutôt perçues comme des obstacles par le Liban.
La justice libanaise a également ouvert une procédure contre Carlos Ghosn, ce qui fait dire à son avocat Jean Tamalé ce matin que son client fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire libanais. Après avoir échappé à la justice japonaise, Carlos Ghosn pourrait bien rester encore longtemps hors de portée des enquêteurs français.
Dans l'actualité française aussi, les maisons de retraite dans le collimateur, c'est-à-dire dans le viseur de la justice.
Un procès contre le gestionnaire d'une maison de retraite privée, un EHPAD du groupe Orpea. La justice faisait suite à une plainte déposée par le fils d'une résidente, une femme de 84 ans, décédée des suites de fractures. Les précisions avec vous, Aram Beng.
L'octogénaire est morte en 2017 après avoir été victime de fractures aux jambes dont l'origine reste inexpliquée. Selon ses proches, la veille du constat des fractures, aucun problème de santé n'était constaté chez Toussaint Dermarcarian. Son fils veut savoir comment les jambes de sa mère ont pu être brisées alors qu'elle était incapable de se déplacer si ce n'est en fauteuil roulant. N'ayant pas eu de réponse satisfaisante, il a alors saisi la justice en 2019 pour négligence et maltraitance. Le plaignant réclame 1 million d'euros pour dommages et intérêts à Orpea. La décision du tribunal est attendue au mois de juin prochain. Plusieurs dizaines de plaintes de résidents ont également été déposées à Nanterre contre Orpea.
Et enfin, cette dernière information où la Belgique accorde l'asile à Rafael Correa. La Belgique accorde le statut de réfugié à l'ancien président équatorien condamné par contumace à 8 ans de prison pour corruption dans son pays. Et nous en reparlerons dans les prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir écouté et bonne soirée à l'écoute des RFI.